Je suis sûre qu'il n'aurait pas aimé ça. Et que même, ça l'aurait emmerdé copieusement. Tous ses hommages, ses célébrations, les 50 ans de sa mort, le centenaire de sa naissance. Et là, ben, Popenko s'y met aussi. Aujourd'hui, Popenko est Georges Brassens. L'un des rares à être devenu monument de son vivant, en même temps qu'il entrait dans toutes les bagnoles ou dans l'intimité des salles de bain pour être chanté par vous, ou par les parents, ou par les grands-parents. Brassens est le chanteur d'ici le plus traduit au monde, alors qu'on pourrait difficilement imaginer plus français dans le texte, je crois. Ça tient peut-être à sa méthode d'écriture, qu'il expliquait en disant « À chaque fois que j'écris une chanson, je fais le point sur ma liberté vis-à-vis des morales ambiantes. Je m'efforce d'échapper à cette époque saturée de slogans. » Pour ce qui concerne les temps saturés de slogans, je crois que 2021 se pose là, à quelques mois de la présidentielle. Et Brassens chante « Contre l'armée, contre les flics ou les bigots ?» Peut-être que c'était une audace d'avant, mais s'il est tellement question de Brassens en ce moment, peut-être qu'on souhaiterait que cette liberté d'expression, sans violence, soit aussi une audace de maintenant. Ce qui est fou, c'est que Brassens ait survécu à tout. Au yéyé, qui aurait pu le voir en vieux croulant, au rock'n'roll, au punk, et même à sa mort. Parce qu'il reste cet alliage, j'ai failli dire mariage, que peu de femmes ou d'hommes incarnent, c'est-à-dire droiture et fantaisie. Bonjour, bienvenue, c'est Popenko.
France Inter, Rebecca Manzoni. Popenko.
Ça fait ça quand on entre dans l'année 1954. Parce qu'Elvis Presley déboule, parce que Simone de Beauvoir décroche le Goncourt, parce que Tépaz s'apprête à inventer le manche-disque. Et à la radiodiffusion française, on entend ce générique de l'émission « Les chemins du jour ».
Ceux qui l'ont surnommé le gorille, sans voir plus loin que le bout de sa première chanson, ignorent volontairement sans doute que les gorilles de cette espèce-là sont plus généreux que beaucoup d'hommes. Tel qu'il est cependant, avec ses manies déjà légendaires, son habitude de suer à grosses gouttes comme un homme qui casse des cailloux au soleil. Celui que nous vous présentons ce soir est un personnage authentique, sincère et violent tour à tour. Un homme avec du sang rouge et des yeux clairs.
1m82, pas loin de 100 kilos, et une guitare qu'il avait l'air de porter comme une massue quand il faisait son entrée sur scène. Quand Brassens enregistre en 1952, il a 31 ans, ce qui pour l'époque n'est pas de première jeunesse. Il a fait de la prison avec sursis pour larcin à l'âge de 16 ans. Il a travaillé chez un artisan relieur, comme ouvrier chez Renault, avant d'être réquisitionné pour le service du travail obligatoire, le STO, donc, en Allemagne. Et quand on lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Rien. Pourtant, il a lu toute la bibliothèque de Paris 14e, ou presque. Il a publié un recueil de poèmes et un premier roman, écrit des chansons refusées partout, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il ferait mieux d'y aller lui-même. Et le voilà sur la scène d'un de ces lieux des années 50 où s'épanouit la chanson française, le cabaret. Ce sera celui de Patachou, Patachou qui a vu, je cite, qu'il était un authentique je ne sais quoi. Mais un authentique quelque chose. Rendez-vous chez Clémentine Desroudilles. Commissaire de plusieurs expositions dédiées à Brassens et co-autrice de Brassens ou la liberté.
Il détonne absolument en tout, Brassens. En fait, il détonne parce que déjà, physiquement, bah, il pèse plus de 100 kilos. Il arrive en espadrille avec un pantalon un peu dégueulasse, une vieille veste en cuir, parce qu'il a absolument pas d'argent. Hein. Je veux dire, c'est pas un style qu'il se donne. Alors que, à cette époque, eh ben, c'est plutôt les cheveux gominés, les costumes, etc., des chanteurs. C'est quelqu'un qui est incroyablement timide parce que il ne veut pas chanter. Hein. Enfin, c'est quand même, donc il arrive, bah il est très très gauche sur scène, il sait pas trop se tenir, il regarde par terre. Quand il entend du bruit, bah il peut grogner, donc c'est pour ça qu'il commence à avoir la réputation d'un ours qui regardait le public comme ça de manière un peu terrorisée, parce qu'en fait il est terrorisé. Mais ce qui donnait en fait sa façon de jouer, dans sa façon de comporter sur scène, quelque chose de très presque inquiétant pour le public. On allait voir le phénomène Brassens, parce qu'en fait il déboulait, il arrivait avec sa chaise, il se mettait à jouer, balançait ses chansons, et il repartait et c'était terminé. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a continué tout au long de sa vie, quand on allait voir un concert de Brassens, mais il ne parlait pas. dans ces tours de chambre à Sens.
L'amour est un bouquet de violettes. C'est le succès de l'année même où Brassens chante Le Gorille, 1952.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille.
Ah oui, bien sûr, le gorille, oui. C'est peut-être la seule, justement, dans laquelle il n'y a pas de gros mots. C'est la seule qui ne soit pas tout à fait honnête, si vous voulez. Les autres osent dire leur nom, celle-là ne le dit pas tout à fait. Mais je débutais, j'avais pas encore l'habitude. Mais je ne l'ai pas fait exprès, vous savez, d'écrire cette chanson comme ça. Il s'est trouvé que ça venait au bout de ma plume et je l'ai écrite parce que j'estime qu'il faut écrire ce qu'on a à écrire. Si le public ne l'avait pas voulu, le gorille, il ne l'aurait pas accepté. Du moment qu'il l'a accepté, si nous devons être condamnés, il est aussi coupable que moi, finalement. Il est mon complice.
Tout le monde se précipite, hors d'atteinte du Saint-Jean-Ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, sondant dignement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorille. Bas soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible, qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Garogorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogorille.
Vous considériez le gorille, par exemple, comme une farce,
Luc Bérimont,
ou comme, comment dirais-je, vous cherchiez à jouer le rôle de justicier?
On est en 1954.
Dans le monde actuel où on brûle encore les gens sur les places publiques, il est assez difficile de dire à la société tout ce qu'on pense d'elle. On est obligé d'employer des mots de contrebande, des idées de contrebande, et c'est ce que je fais. Alors j'ai l'air de faire une farce, et puis en réalité, je dis des choses sérieuses, enfin des choses que je crois sérieuses.
En 1950, suite à la hausse des vols à main armée, le Parlement rend ce crime passible de la peine de mort. Entre 1958 et 1981, 19 criminels de droit commun sont guillotinés. 19 exécutions en 23 ans. C'est comme si Brassens en anticipait la dénonciation.
La suite serait délectable. Malheureusement, je ne peux pas la dire et c'est regrettable. Ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup. Comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorille.
Trois ans ferme. C'est la durée de l'interdiction décrétée par le comité de censure de la Radio Nationale contre le gorille de Brassens. 3 ans donc, où fut apposé ce tampon, interdit à la diffusion. Alors merci Europe 1. Quand la station est créée en 1955, Europe met le gorille dans les oreilles des auditeurs.
C'est un malheur de faire des chansons que les hommes ne supportent pas. Je ne pense pas qu'elles puissent faire beaucoup de mal et qu'elles puissent souiller les oreilles, mais des gens le croient, alors laissons-les dans l'heure. Comme on ne les passe pas à la radio, elles vivent plus longtemps, voyez. Elles s'abîment moins vite.
Et cette année-ci, qu'est-ce qu'il y a parmi les chansons interdites, enfin disons interdites, employant ce terme?
Les trompettes de la renommée ne passeront sûrement jamais.
Pourquoi?
Non, parce que c'est l'histoire d'un type, c'est mon histoire du reste, auquel un chanteur, qui est accusé par ses amis de ne pas faire assez de publicité, de ne pas faire assez de scandale dans sa vie privée. Et alors il explique de tout le long des couplets ce qu'il pourrait faire pour faire parler de lui, pour attirer l'attention sur lui. Et il est assez difficile évidemment de le passer à la radio, ça.
Une femme du monde et qui souvent me laisse faire mes 4 voluptés dans ses quartiers de noblesse m'a sournoisement passé sur son divan de soie des parasites du plus bas étage qui soit. Sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de
ternir l'honneur de cette dame en criant sur les toits et sur l'air des lampions. Madame la marquise m'a foutu des morpions. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché.
Je me suis rendu compte que c'était vraiment un des premiers bad boys, que c'était,
Il s'appelle Joseph Danvers. Il est chanteur, compositeur, auteur notamment pour Alain Bachung ou Hubert Félix Thiéfen. Joseph Danvers, auditeur de Brassens dans Pop & Co. On reprend.
Je me suis rendu compte que c'était vraiment un des premiers bad boys, que c'était, le mec aimait la vie, boire des coups, il aimait les femmes. Enfin, il avait toute la panoplie parfaite du rocker. Il enlève sa moustache, sa grosse pipe et son genou levé sur lequel il posait sa guitare acoustique. Mais si on modernise un peu l'image, je veux dire, c'est quelqu'un qui est éminemment rock. Il avait une vie rock'n'roll et il le racontait dans ses chansons. Et pour moi, c'est ça vraiment l'essence même de ces mouvements, c'est-à-dire des débuts du rap, des débuts du rock. C'est une rage de gens qui se sentent inadaptés ou qui se sentent en décalage par rapport à la société ou à l'establishment et qui, du coup, ont trouvé ce moyen d'expression pour le dire. Alors maintenant, on est dans une époque où, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup moins de rebelles. Mais c'est vrai que Brassens, pour moi, c'était le premier rappeur et même le premier rocker en France, quoi.
J'ai perdu la tramontane en perdant Margot, qui épousa contre son âme un triste bigot. Elle doit avoir à l'heure qu'il est, deux ou trois marmots qui pleurent pour avoir leur lait. Et moi, j'ai tété leur mère longtemps avant eux. Le bon Dieu me le pardonne, j'étais amoureux. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous, j'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou.
Où viviez-vous et dans quel milieu?
De milieu, il n'y en a pas, il n'y a jamais de milieu dans ma vie, le milieu n'existe pas.
28 septembre 1954, émission Les Chemins du Jour.
Et nous avons vécu pendant des années en marge de la société, en l'ignorant, en sachant, en ne se souvenant plus qu'elle existe. Je n'avais pas d'argent. Mais je n'en avais pas besoin, parce qu'il faut dire qu'on me nourrissait aussi. J'étais comme un oiseau, comme un chat. Un chat qui gratte à votre porte et puis que vous nourrissez. Je n'ose pas le dire, je vivais comme une espèce de fou.
Et ces autres dont vous parlez, qui étaient-ce?
C'était les amis à moi, des gens que j'avais connus chez des parents, et puis qui m'ont recueilli quand je revenais d'Allemagne et qui m'ont gardé. Qui m'ont gardé comme ça parce que je leur plaisais. Vous savez, les chats, quand ils vivent en rond, dans un coin, dans n'importe où, ils sont heureux, nous étions exactement comme ça.
Et c'est eux qui ont inventé ce mode de vie.
Nous l'avons inventé ensemble.
C'était Impasse Florimond, au numéro 9, dans le 14e, à Paris. Brassens vivait là, avec Marcel Planche, carrossier, et la femme de Marcel, c'était Jeanne. Elle était lingère. Brassens dit de Jeanne qu'elle lui sauva la vie chaque jour. Pendant quelques mois, Marcel, Jeanne et Georges firent ménage à trois. Clémentine Desroudilles.
Et il a vécu dans cette impasse où il n'y avait ni eau, ni électricité, ni tout à l'égout, jusqu'en 66. Ça veut dire que c'était peut-être une ou la plus grande vedette française. Il vivait dans cette impasse et c'est là où il était profondément heureux. Son bonheur, il était là. Moi qui suis une grande, grande passionnée de musique et de chansons, je n'ai jamais rencontré un artiste qui soit aussi peu différent de ce qu'il chante. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est absolument extraordinaire, c'est que tout ce qu'il est, il le chante, en fait. C'est-à-dire que c'est inouï, parce que souvent, t'as des gens qui lèvent le poing, qui dénoncent, etc., puis t'aperçois dans le privé, ces espèces de raclures. Brassens, c'est tout le contraire. Dans sa vie, il va veiller à ce que tout le monde aille bien, à ce que tout le monde ait une belle maison. Donc il fait installer l'eau, l'électricité, et puis voilà. Puis Jeanne, elle veille au fait que les fans ne rentrent pas, etc., et tout ça, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de rôdeurs et de gens qui essaient de croiser Brassens. Je pense le fait aussi que le succès ne soit pas arrivé à 20 ans, mais à 30 ans, le fait qu'il n'ait pas cherché à devenir une vedette, fait qu'il n'est pas dupe non plus.
Brassens a célébré Jeanne en chanson. Et la chanson Pour l'Auvergnat rend hommage à Marcel.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Quand je pense à Brassens, moi je n'ai que des scènes du quotidien en fait qui me reviennent.
Joseph Danvers, à nouveau dans Pop & Co.
Pour moi, ça n'a jamais été une inspiration directe, en tout cas consciente, mais ça a été une inspiration, voilà, je pense, malgré tout détournée, parce que Brassens faisait partie de mon quotidien, sans que je le veuille. Pour moi, Brassens, c'est mon père qui se rase dans la salle de bain le dimanche matin en chantant La Mauvaise Réputation ou une de ses chansons. Et je me souviens aussi de souvenirs de colonies de vacances. Quand j'étais gamin, je savais pas ce qu'on chantait. Effectivement, quand on braillait à tue-tête les copains d'abord ou ces trucs-là, sans savoir que c'était Brassens, et je me suis dit, c'est pas rien, en fait, de passer dans ce répertoire-là de l'inconscient de gamins qui connaissent absolument pas ton œuvre, mais par contre, qui vont te chanter. Mais l'impact de Brassens, pour moi, il se mesure aussi à ce genre de petits détails, en fait.
Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.
Et je l'écoutais bien des années plus tard, c'est-à-dire quand moi-même je suis devenu chanteur. Et mes premières scènes, je les ai faites guitare-voix. Pour moi, les chanteurs en guitare-voix, c'était Bob Dylan, c'était des mecs comme ça, mais qui font partie du patrimoine musical mondial, mais qui sont souvent voilà anglo-saxons. Et en France, c'est vrai que je me suis dit, mais avant Brassens, qui faisait ça? En cherchant un peu, je me suis rendu compte que quasiment personne. Donc c'est vrai que si j'ose monter en guitare-voix sur scène aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un l'a tenté 50 ans auparavant.
Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore.
Sous l'apparente simplicité, c'est très compliqué. Au niveau de la reprise, je le mets à peu près dans les mêmes cases qu'un Gainsbourg ou qu'un Bachung. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais pouvoir chanter du Gainsbourg, c'est pas très compliqué. Et en fait, c'est super dur. Parce que pour se détacher de l'interprétation de ces gars-là, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'on imagine toujours Brassens comme le truc de base à chanter au coin du feu, encore une fois, en colo, ou je sais pas, voilà, ou quand on commence. Mais non, il y a des suites d'accords qui sont pas évidentes, ça tourne pas sur 4 accords. Hein. Et puis, il y a une rythmique à avoir qui est bien particulière. Et si on veut sortir de cette rythmique, c'est compliqué. On s'éloigne tout de suite, très vite. Dès que j'ai essayé de reprendre du Brassens, soit le morceau, je l'emmenais vraiment ailleurs, et puis je me dis, merde, est-ce qu'on reconnaît Brassens à l'arrivée, finalement? Ou alors, je restais collé à ce qu'était la chanson, et là, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Donc oui, c'est pas facile. Et en fait, ce que j'ai appris aussi en m'enseignant, c'est qu'a priori, il composait la plupart du temps au piano. Et qu'ensuite, il adaptait ce qu'il avait composé à la guitare.
Jaco.
Jaco est un perroquet.
Chante-nous quelque chose, Jaco.
Ce ne sera pas Jaco, mais Brassens au piano. Brassens composait effectivement au piano, mais jusqu'à la fin de ses jours, l'orchestration restera la guitare. Plus deux fidèles, Pierre-Nicolas à la contrebasse et Joël Favreau qui tenait une deuxième guitare. Dans le numéro du magazine Légende, consacré à Brassens, Bertrand Dical rapporte que Gibraltar, secrétaire-manager si on peut dire, et ami de Brassens, Gibraltar donc, exigeait qu'un piano soit sur scène pour les tours de chant de Brassens. Et il servait à quoi ce piano? À poser son verre d'eau. En même temps, je cite, « Quel théâtre peut prétendre être sérieux s'il n'y a pas de piano à queue en état de marche ?» En tout cas, il s'en est passé des révolutions musicales pendant les 30 ans de carrière de Brassens. Le rock'n'roll, les cathédrales pop des Beatles et des Beach Boys, le disco, le punk et j'en passe. Et Brassens restera pom 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 pom.
J'ai été conditionné quand même par la musique de jazz.
Mais c'est assez curieux parce qu'il y a peu de jazz dans votre musique.
Mais si, il y en a énormément. Il faut demander ça aux musiciens, ils vous le diront. J'ai une façon de chanter en décalant. On m'accuse assez de faire toujours la même musique. S'il vous plaît, voulez-vous tenir ma pipe une seconde et me passer la guitare ?
Ça se passait sur France Culture, le 9 janvier 1979, et Brassens était au micro de Philippe Nemo.
Vous voyez, juste préféré écrire l'eau de la Clairefontaine comme ça. Ta-da, 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 ta-da. Ta-da, 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 ta-da. Ta-da, 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 ta-da. Et complètement désaccordé, oui. Je m'en étais pas aperçu, mais j'ai pas eu le temps. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Et pourquoi si vous l'avez fait autrement alors ?
Mais je l'ai fait autrement parce que il faut quand même peut-être de temps en temps laisser respirer les gens qui écoutent, voyez.
Clairefontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne. Fleur de lys ou fleur d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu du plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent.
La radiodiffusion française présente en transmission différée
Pop & Co.
Georges Brassens.
Rebecca Manzoni.
Quoi faire de cette énergie humaine ?
Sur France Inter.
Jusqu'à midi, Pop & Co est donc Pop & Georges. Qu'un jour ou l'autre, on a toutes et tous fredonné. Et c'est vrai que cette mélodie-là, par exemple, elle n'est pas si facile à chanter.
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche.
Seul un musicien. Vous êtes vous-même arrivé à moitié, là.
Là, je l'ai faite fausse, oui, mais je suis très fatigué, là. Je suis malade ces temps-ci. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Voilà. C'est parce que j'aime assez ça. J'aime jouer aussi avec les notes, vous voyez. Alors ça, c'est peut-être une recherche, peut-être un peu inutile, vous voyez. Ma musique, elle doit être inentendue. Elle doit être comme de la musique de film. Quand la musique de film accompagne une image, mais il ne faut pas qu'on l'entende trop. Il faut qu'elle apporte un petit quelque chose, il faut qu'elle donne une espèce d'atmosphère, vous voyez, à l'image qu'on est en train de voir. Mais il ne faut pas qu'elle prenne le pas sur l'image qu'on est en train de voir, sinon c'est foutu. Et dans mon cas, il ne faut pas qu'au moyen d'artifices musicaux, par exemple, au moyen de cuivre, au moyen d'une grande orchestration, je détourne l'attention du texte. Il faut que mes chansons aient l'air d'être parlées. Il faut que ceux qui m'entendent croient que je parle, croient que je fais des petites musiquettes faciles. Il faut que ce soit comme ça.
Brassens a défini une forme de lexique, on va dire.
Clémentine Déroudille.
Et d'ailleurs, moi, j'ai J'ai eu la chance, grâce à Agathe Fallet, d'avoir des classeurs de manuscrits. On voit toutes les tentatives pour arriver, par exemple, la chanson L'Orage ou Le Curé, les différentes phases de brouillon. Et on voit d'ailleurs la liste de vocabulaire, les mots qu'il note, etc. Par exemple, il dit, moi, je peux pas employer automobile dans mes chansons parce que ça n'irait pas. Ça n'irait pas. Charabeu, oui. Alors effectivement, on revient à François Villon, on revient à l'imagerie médiévale qui est pour lui comme une imagerie qui est une littérature qu'il aime beaucoup, donc qu'il lit beaucoup. Et puis, c'est surtout, il a l'impression comme ça, il dit, il n'y a aucune référence possible. Il va plutôt se servir d'une bergère, d'images un peu d'Épinal ou d'une espèce de théâtre qu'on connaît tous, nous, bons Français.
Qui est dans l'imaginaire collectif.
Exactement, c'était le terme que je cherchais. Et il va jouer avec ça. Il ne veut absolument pas que ses chansons soient connotées d'une époque.
Je suis là.
Et qui va là ? Majid Cherfi, écrivain et parolier du groupe Zebda. Quand Majid Cherfi entre au lycée à Toulouse, il se fait des copains qui lui font découvrir le punk anglais avec Clash et la chanson française avec Lavillier, Higelin et Renaud.
Et un jour, on était chez un de ses potes et il passe à Brassens. Et j'étais là, mais ouais, Brassens, je vois vaguement des chansons rigolotes quand je vois Fernande, je pense. J'avais une image un petit peu comme ça d'un chanteur vieux pour les vieux, avec des grosses vestes de velours, la guitare sèche qui faisait un peu naze. Et il me dit, écoute.
Ce n'est pas tout d'être mon père, il faut aussi me plaire. Être mon fils, ce n'est pas tout, il faut me plaire. Son père sympathique, c'est pas automatique, automatique. Avoir un fils qui nous agresse, ce n'est pas assuré.
Ce texte intitulé « Ce n'est pas tout d'être mon père », Brassens en a écrit le texte et la musique. Et vous vous en êtes rendu compte, ça n'est pas lui qui la chante. L'interprète s'appelle Jean Bertola.
Et c'est un de ses potes qui l'a chanté. Et moi, je l'ai découvert par ce mec-là. Et ça a été pour moi une espèce de d'effarement parce que il était en train de dire oui, il suffit pas d'être mon père pour que je t'apprécie. Le nombre de pères qui sont de purs connards font la majorité du genre. Et toute la chanson, il la décline comme ça. Et moi, je me souviens que à cette époque-là, j'étais quand même bon. J'ai grandi dans une culture musulmane et on avait. On était dans une espèce de vénération. Être père, on vénérait son père, quoi qu'il ait été. Et ce pote-là pensait à son père en disant « Bon, le mien, c'est un connard. » « Oh putain, ton père, c'est un connard. »
L'enfant naturel, l'orphelin, est malheureux et je le plains. Mais du moins, il n'est pas tenu au respect d'un père inconnu. Jésus, lui, fut plus avisé, et plutôt que de s'exposer à prendre un crétin pour papa, il aima mieux n'en avoir pas.
Et en partant, je me suis dit, mais j'ai fait la liste de toutes les imbécilités du mien de père. Il se dit, mais ouais, putain, mais oui, un père n'est pas forcément celui à qui on doit obéir, et n'est pas forcément quelqu'un qu'on doit vénérer. Et à partir de là, je me suis mis en quête de comprendre ce Brassens et il m'a d'ailleurs fait basculer. Il fait partie de ces gens qui m'ont dit « Tu choisis ton camp ou le mien ou celui de tes parents ?» Et j'ai choisi celui de Brassens. Il m'a amené à une forme de trahison parce que c'était « Ou tu veux faire plaisir à tes proches ou bien tu t'émancipes en quelque sorte. Mais tu peux pas avoir les deux. » Et il m'a obligé à choisir un camp. Notamment, mon athéisme vient, entre autres, de gens comme Brassens.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu ? Je voudrais avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. croirez. Mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas. La foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi.
Et bizarrement, avec des mots à l'ancienne, il était la modernité incarnée. La liberté de la femme, la liberté de jouir de son corps, et tout en a poussé l'homme vers son libre arbitre. Il nous fait aimer sa langue, parce que sa langue défend de belles idées, et donc on finit par appartenir à cette langue. Et les mots désuets, du coup, ne deviennent plus désuets, mais ils les oublient, en fait.
Est-ce qu'il y aurait un mot ou une expression comme ça où vous avez dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?»
Je me rappelle de Calipige.
Bah oui, bien sûr. Vénus Calipige. Calipige, avec deux L, un I d'abord et un Y ensuite. Vient du grec « calipugos », épithète d'Aphrodite, de « kalos » beauté et « pugé » fesse. Pugé ou pugé, pardon. Faut pas croire, mais je lis le Larousse, là. Et donc, Calipige se dit d'une statue qui a de belles fesses, par extension, se dit d'une femme aux fesses plantureuses. Vénus, Calipige, chanson de Brassens, écrite en 1964.
Que jamais l'art abstrait qui sévit maintenant n'enlève à vos attraits ce volume étonnant. Au temps où les faux culs sont la majorité, gloire à celui qui dit toute la vérité. Votre dos perd son nom avec si bonne grâce qu'on ne peut s'empêcher de lui donner raison. Que ne suis-je, madame, un poète de race pour dire à sa louange un immortel blason. Pour dire à sa louange un immortel blason. En le voyant passer, j'en eus la chair de poule. Enfin je vins au monde et depuis je lui voue un culte véritable. Et quand je perds aux boules en embrassant Fanny, je ne pense qu'à vous. En embrassant Fanny, je ne pense qu'à vous. Pour obtenir, madame, un galbe de cet ordre, vous devez torturer les gens de votre entour. Donner au couturier bien du fil à retordre, et vous devez crever votre dame d'atour. Et vous devez crever votre dame d'atour.
J'ai envie de dire qu'il m'a complètement construit. Et d'ailleurs, dans Zelda, j'ai écrit beaucoup de textes. Je n'ai jamais pu me départir de sa rythmique, une construction classique de quatre vers, enchaînée par quatre vers. Alors parfois ça pouvait être trois, mais quelque chose de très voisin de la poésie. J'ai tellement été obsédé par sa stylistique, à la fois donc la forme et le fond, que alors, il m'a tellement empoisonné, je dirais, par les deux, qu'il me semble que je n'ai jamais pu m'en sortir et trouver une écriture tout à fait mienne à cause de l'envoûtement à la Brassens.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Il vous a fait devenir totalement français, je suis pressé.
Oui, bien
c'est
sûr.
Un peu bizarre de dire ça.
Ouais. Oui, oui, parce que français, c'est justement la grande question qui est d'actualité, c'est est-ce que c'est être né en France, est-ce que c'est parler français, je ne sais quoi. Non, français, c'est adhérer à des idées. Et celle de Brassens pousse l'homme à son autonomie, à déconstruire les idées reçues, les coutumes, les traditions, tout ce qui fait que l'homme n'est pas, libre, une certaine idée de la France.
Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Comment est venue l'idée de faire une reprise de Brassens en version reggae dub?
Alors c'est venu parce que finalement, quand on écoute beaucoup de ces chansons, il y a une espèce de rebond permanent. Donc,
La pompe.
Je vous remercie. La pompe. Et cette pompe, elle est voisine du reggae. C'est juste après une articulation rythmique qui l'a fait franchir définitivement la frontière reggae, qui est aussi une autre forme de pompe, de contretemps. Ça a paru évident à tous les musiciens que ça fonctionnait. Et puis j'ai voulu qu'il y ait une espèce de parfum oriental avec des luths, des oudes, des derboukas, qui ont aussi parfaitement fonctionné.
Alors là, vous n'avez pas choisi votre camp. Vous étiez et français et fils d'Algérien.
Exactement. Là, j'ai pas choisi mon camp. J'étais dans mon moment de synthèse, un peu pour mystifier le côté universel de l'idée que je me fais du monde, une espèce de symbolique idéal en mêlant les deux cultures.
En 2001, dans un album collectif qui s'intitule Les oiseaux de passage, où Arthur H, Miossec, Kerenan reprennent Brassens, Magid Cherfi interprète supplique pour être enterré à la plage de Sète.
Pauvre roi pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon. Pauvre cendre de conséquence, vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, passe sa mort en vacances.
L'idée qu'on se fait de Brassens, l'un des clichés qui circule à son sujet, c'est la misogynie. Réponse de Clémentine Déroudire.
C'est l'opposé même de la misogynie. Je pourrais même dire qu'on peut remercier Brassens, en fait. Alors, effectivement, il y a des chansons de salle de garde à la con. Enfin, pour moi, j'aime pas beaucoup, mais ça, c'est mon jugement. Et voilà, on n'en parle pas. Mais Saturne.
C'est quoi Saturne?
Bah, Saturne, c'est un hymne au temps qui passe. C'est un hymne aux cheveux gris de sa compagne. Non, au fait que Poupchen avait 10 ans de plus que lui. C'était pas une pépée, mais c'était la femme qu'il aimait. Et donc Poupchen, elle avait toujours peur qu'il aille voir ailleurs. Et Saturne, c'est cette déclaration d'amour en disant oui, le temps qui passe, mais c'est toi que j'aime, quoi. Et puis on revient à la manière dont il se comportait aussi dans la vie. Quand en 66, il fait le TNP avec Juliette Gréco. Il est une immense vedette. Il réclame, enfin il exige, enfin je sais pas quel terme on peut employer, à ce que les deux noms soient au même niveau. Il va tous les soirs assister au concert de Gréco. Et Gréco dira, mais c'est extraordinaire, j'ai jamais connu quelqu'un qui se comportait aussi bien avec les femmes. Qui a chanté Brassens pour la première fois? C'est Patachou, c'est Barbara, c'est Gréco, enfin tu vois. Et c'est quand même des femmes qui sont des femmes ultra modernes à leur époque. Et ben, ce qu'elle choisit, c'est chanter Brassens.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont croise le vent marot. Prudent, prends garde à ton chapeau.
En 2001, Catherine Ringer reprend Le vent de Brassens.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mélisse du vent furibond, qui rebrousse les bois, retrousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sous le pont des arts, tu croises le vent fripon, hey, prudence, prends garde à ton jupon. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolante, nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, ce pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard,
vous écoutez Pop & Co sur France Inter, un Pop & Co Georges Brassens, et il est 13h, l'heure du journal, datée du 17 septembre 1981.
Il a fait sa dernière plaidoirie pour l'abolition contre le châtiment suprême. C'était le grand jour hier à l'Assemblée nationale pour Robert Badinter, visage frémissant, agrippant son pupitre des deux mains, comme pour mieux convaincre. Le ministre de la Justice a défendu son projet avec le ton de l'avocat.
Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, j'ai le sentiment d'assumer, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition, législateur français. De tout mon cœur, je vous remercie.
Le 18 septembre 1981, après deux jours de débat, les députés français adoptent donc le projet de loi portant abolition de la peine de mort par 363 voix contre 117. Presque 30 ans plus tôt, la voix de Brassens s'était élevée contre la peine de mort avec l'une de ses toutes premières chansons, Le Gorille. Brassens meurt un peu plus d'un mois après le vote de cette loi Badinter, le 22 octobre précisément. Il eut donc le temps de la prendre de son vivant.
Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. C'est qui c'est ça? C'est Brassens. Ah oui, c'est Brassens. Voilà un mec qui avait le sens du verbe, tiens, Brassens.
1984.
Moi, j'avais une passion pour cet homme-là.
Pierre Desproges est au Théâtre Fontaine.
Un de mes grands regrets, c'est de ne jamais l'avoir rencontré, Brassens. Le seul contact que j'ai eu avec Brassens, c'était pas très longtemps avant sa mort. Il m'a téléphoné chez moi. Il m'a dit, je vous appelle pour vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. Bon, alors, bien sûr, je lui ai répondu que moi aussi, j'aimais beaucoup ce que je faisais, évidemment. Hé, hein, hey, c'est pour de rire, ça. Je pense pas ce que je dis, là. Parce qu'en réalité, vraiment, j'adorais Brassens. J'ai 45 ans, je suis plus un gamin. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Le jour de la mort de Brassens, j'ai pleuré comme un môme. Alors que je sais pas pourquoi, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris deux fois des moules.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume au mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture.
Tout ça reste très 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 joyeux, parce que c'est quand même infiniment joyeux de se dire qu'on continue à parler de Brassens, que vous consacrez une émission sur lui, que ses disques continuent à se vendre. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu de sa verve, ça veut dire qu'on l'écoute, ça veut dire que ses idées sont défendues, ça veut dire que l'irrespect continue, enfin c'est qu'on est un pays de chansons, quoi. Il y a un côté aussi qui pour moi est fondamental chez Brassens et dans la chanson, et voilà, c'est le côté populaire, pas populiste, hein. Populaire, c'est-à-dire qui réunit tout le monde. Alors c'est une utopie, peut-être, mais en tout cas ça marche pendant quelques minutes. T'es dans une salle de spectacle, tu viens de milieux complètement, complètement différents, t'as des idées politiques totalement différentes, et ben tout d'un coup t'es ensemble. Bah putain, ça c'est génial. Enfin, pour moi, Brassens, c'est exactement ça.
Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage.
Pour ce Pop and Georges Brassens, vous avez entendu Clémentine Déroudille, co-autrice de Brassens ou La Liberté avec Johan Sfar. Clémentine Déroudille est aussi la commissaire d'exposition de Gare au Brassens, qui est ouverte à l'espace Dominique Bagouet à Montpellier, et cette expo dure jusqu'au 30 janvier prochain. Vous pouvez lire Joseph Danvers et d'autres artistes dans le beau livre de Sophie Delassin intitulé Brassens à son temps. C'est chez Segers. Vous pouvez écouter Joseph Danvers avec son nouvel album Doppelganger. Quant à Majid Cherfi, il a publié La part du sarrasin chez Actes Sud, et je tenais aussi à vous signaler un très beau livre intitulé Brassens, des souvenirs trop beaux pour moi. C'est signé Agathe Fallet et c'est une déclaration d'amour et d'amitié. Paul Faure, François Fillon, Victor Hugo, ce sont des poètes que Brassens a mis en chanson. Et eux ont choisi Jacques Prévert avec ce morceau intitulé « Compagnons ». Ils sont feu, comme feu Chatterton.
Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du canis. C'est une musique qui plaît. Et là, il nous écoutait. Et je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons des mauvais jours, que vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ai bien pas au conseil, pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons, les mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons, les mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
La semaine prochaine, Pop & Co et Stax, S-T-A-X, label de soul music, qui vit le jour à Memphis, et Juliette Armanet mettra ses plateformes shoes pour vous emmener dans les coulisses de son morceau, Le dernier jour du disco. Koyan Guyen a réalisé cette émission avec Gilles Gaillard ce matin. Ilinka Negulesco a mis sa souris sur toutes les archives. Et JB Audibert a composé la programmation musicale. Salut, bon week-end et à samedi.